Voilà, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très très impressionné parce que vous devez savoir que dans les colloques académiques, universitaires, il y a généralement moins de monde. En plus, je ne suis pas spécialiste de l'accompagnement par les pairs, donc je vais essayer quand même d'être à la hauteur. Tout d'abord, peut-être redresser une erreur. Je ne suis pas du tout prof à l'université de Mons. Je suis effectivement lié à l'université de Bruxelles. Donc ça va affecter le facteur d'impact de l'université de Bruxelles. Je vais tout d'abord essayer d'éclairer ce titre peut-être un peu énigmatique. Horizon anthropologique des nouvelles politiques sociales. En quoi il peut y avoir un lien entre des enjeux anthropologiques et les transformations des politiques publiques, des nouvelles politiques publiques. Il faut savoir que niveau politique publique, donc j'ai surtout travaillé sur les politiques sociales, sur les politiques culturelles et sur les politiques en matière de santé mentale. Et pour peut-être clarifier ce lien qui est annoncé dans le titre de ma communication, peut-être revenir très brièvement sur mon parcours personnel. Donc, dans les années 80, je fais une thèse en sociologie de l'éthique, à une époque où c'est très très peu travaillé, où massivement la sociologie déconstruit l'éthique, c'est Bourdieu, c'est Foucault éventuellement, et ça me conduit à m'intéresser sociologiquement à la responsabilité. Et il faut savoir qu'à l'époque, la responsabilité est quelque chose qui est très très peu étudié en sociologie. Donc des ouvrages de sociologie sur la responsabilité, il y en a très peu. Il faut quasiment remonter à l'époque de Durkheim et un ouvrage de Fauconnet, qui d'ailleurs est lié à des notes que Fauconnet a prises en suivant les cours de Durkheim. Donc ça date, la publication c'est 1925. Donc on parle très très peu de ça. Et j'essaye de construire une sociologie de la responsabilité en prenant ça au sérieux, c'est-à-dire en considérant pas qu'il faut déconstruire, que c'est une illusio, etc. Je le fais parce que à l'époque, ça va se faire sursauter les Français. Je suis professeur de morale dans une école. La laïcité à la belge, c'est pas du tout la laïcité à la française. En Belgique, dans l'enseignement public, les élèves peuvent choisir entre un cours de morale laïque, mais aussi un cours de religion, un cours de religion chrétienne, islamique, bouddhiste, enfin je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, étant prof de morale, j'avais envie quand même de faire une sociologie qui prenne la morale au sérieux. Et donc, on a dit que j'étais aussi philosophe, donc je m'intéressais à l'époque très fort à la pragmatique, mais à la pragmatique linguistique, donc Carl Otto Appel notamment. Et donc j'ai essayé de comprendre la responsabilité par rapport à des variables linguistiques. Donc ici, je suis sans doute toujours énigmatique, mais je vais essayer de clarifier un peu ça. On a bien voulu rappeler le titre d'un de mes ouvrages qui s'appelle « La grammaire de la responsabilité ». Et donc, ça va, je pense, clarifier les choses. Je pense qu'on peut saisir la responsabilité, notamment la clarifier, en montrer les différentes accentuations en référence à la grammaire des pronoms personnels. Il y a une responsabilité à la première personne. Je suis autonome, je prends des initiatives, c'est la faculté de commencer de Kant, c'est l'initiative, etc. C'est je suis autonome, je m'engage. Mais on peut aussi la prendre à la deuxième personne. Je suis responsable aussi de l'autre. C'est le visage de Lévinas, par exemple. Donc c'est à la deuxième personne, c'est la responsabilité « tu » comme il y avait une responsabilité « je ». On peut aussi construire des systèmes assurantiels, c'est-à-dire avoir une conception tout à fait objectiviste, neutre, en quelque sorte, de la responsabilité « il ». On peut développer aussi de la solidarité, de la fraternité, et ce sera la solidarité « nous ». La responsabilité « nous ». On peut aussi, on peut continuer, hein, « eux », le bouc émissaire, etc. Donc, cette entrée par la linguistique permet en quelque sorte de déployer le concept de responsabilité. Deuxième chose, toujours dans la linguistique, quand on se demande si quelqu'un est responsable de quelque chose, quelles questions on se pose? On se pose des questions du type, est-ce qu'il devait faire ça? Est-ce qu'il voulait vraiment faire ça? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Et donc ça renvoie à ce que les linguistes appellent des auxiliaires de modalité. devoir, vouloir, savoir, pouvoir. Bon, vous allez me dire, et c'est quoi le rapport avec les nouvelles politiques publiques? En faisant cette thèse, j'ai aussi participé, contribué à la création d'un groupe de recherche, ça s'appelle le GRAP, groupe de recherche sur l'action publique à l'Université de Bruxelles, où on étudiait, où on se proposait d'étudier les changements dans les politiques publiques. Et qu'est-ce qui se passait dans les années 80-90 au niveau des politiques publiques? Tout d'abord, il y avait une critique massive de l'État social qui se développait sous l'influence de la montée du néolibéralisme. C'était les années Thatcher, c'était les années Reagan, et donc l'État social déresponsabilisait les acteurs. Autrement dit, on passait, si vous voulez, d'une logique où il paraissait normal de développer par rapport au chômage, par rapport à toute une série de situations difficiles, une responsabilité nous. C'est ça l'état social, c'est ensemble on doit assumer un certain nombre de difficultés. Et donc on en revenait à la responsabilité je. Et donc si vous voulez, il y avait, pour comprendre ces transformations, on pouvait les voir sous l'angle d'un déplacement dans les accentuations relatives des responsabilités. Bon, vous allez me dire, et les auxiliaires de modalité, je sens que vous êtes bouillant d'impatience de le savoir, mais remettons-nous, enfin, il y en a des plus jeunes ici, mais remettons-nous dans les années 80, dans les années 90, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la sémantique qui pénètre dans les politiques sociales? C'est la sémantique des capacités, de pouvoir. Capacité, capacitation, habilitation, empowerment. Donc tout ce vocabulaire de la capacité, en quelque sorte, du pouvoir pénètre. Compétences, la dimension savoir. On commence à faire des bilans de compétences, des référentiels de compétences. Vouloir, il faut que les gens soient motivés, etc. Et ces variables-là, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il en veut? Devient une manière d'évaluer les acteurs dans ces nouvelles politiques sociales. Et donc, maintenant... J'espère que vous avez, vous êtes certain de l'intérêt de relier anthropologie et politique sociale. Donc je pense que les politiques sociales se modifient en même temps que se modifie une conception anthropologique. Et je vais développer maintenant cela. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? Comment peut-on comprendre la responsabilité sociologiquement? Je suis posé la question lors de la construction de ma thèse. Tout d'abord, le mot responsabilité en français, d'ailleurs en anglais, ça pénètre, et ça pénètre de manière très, très violente, en quelque sorte très rapide, mais seulement au 18e, au 19e siècle. Avant, il n'y a pas exactement l'équivalent du mot responsabilité. Donc il y a une histoire, si vous voulez, de la responsabilité. Et je vais envisager... La responsabilité comme une manière de comprendre ce qui arrive, une manière de comprendre l'action. Il y a plein d'autres manières de comprendre l'action. Pour Bourdieu, c'est l'habitus. Pour Freud, c'est l'inconscient. Dans la tragédie grecque, c'est le destin. Ça peut être la fatalité, ça peut être le déterminisme astral. Donc il y a 36 000 manières de comprendre ce qui se passe, et la responsabilité est une manière parmi d'autres. Et je pense que cette manière de comprendre... Donc cette anthropologie spécifique à laquelle nous adhérons a donc une histoire, et elle s'impose. Alors on peut remonter, évidemment, enfin c'est l'objet du bouquin « La grammaire de la responsabilité », on peut remonter très loin dans l'histoire, mais elle s'impose massivement contre ses concurrents. Le déterminisme astral, par exemple, qui est très dominant au Moyen-Âge, les référentiels théologiques, par exemple, qui sont encore très dominants jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc ce modèle, cette anthropologie de l'autonomie, de la responsabilité, de la capacité, va s'imposer, devenir dominante à partir du, disons, du XVIIe, XVIIIe siècle. Et nous sommes en plein dedans. Sauf que... Quand on est en plein dedans, on peut aussi considérer là-dedans des fluctuations. Alors je vais vous expliquer la manière dont j'envisage ces fluctuations qui, me semble-t-il, peut être très éclairant par rapport à cette transformation des politiques publiques. Alors là, je fais une référence à Foucault. Foucault, il dit, dans les bouquins de la période initiale, il dit que l'homme naît au XVIIe siècle. Donc, je crois qu'il dit ce que je veux dire ici, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une conception de l'homme, notre conception de l'homme, elle apparaît avec cette deuxième modernité ou cette modernité du XVIIe, XVIIIe siècle. Et Foucault nous dit un truc. L'homme apparaît ou naît comme doublé empirico-transcendantal. Alors il fait référence à Kant, doublé empirico-transcendantal, alors je ne vais pas trop de philosophie, mais doublé empirico-transcendantal, chez Kant, empirico ça veut dire on est le résultat de cause, et transcendantal on est libre. Donc l'homme apparaît dans cette tension entre autonomie et hétéronomie, entre liberté et déterminisme. Et donc, je crois que l'anthropologie des modernes est traversée par, fondamentalement par ces tensions qui, à l'origine, sont des tensions dures. Alors, c'est liberté et déterminisme, c'est responsable, irresponsable, c'est autonome, hétéronome, c'est actif, passif, hein, et le mot actif va revenir, hein, activation, c'est capable, incapable, c'est normal, pathologique, c'est raison, passion, et c'est homme, femme. Et ses natures, cultures, etc. Mais c'est une tension. Kant dit que c'est une antinomie. Est-ce que l'homme est libre? Est-ce qu'il est responsable? On n'en sait foutre rien. Si on lit Bourdieu, on a tendance à penser que non. Si on lit Lévinas, on a tendance à penser que oui. Il y a plein d'endroits de scènes sociales où cette tension est effectivement mise en scène. Dans la scène pénale, par exemple, est-ce que la personne est responsable? Mais on fait quand même venir des psychiatres pour voir si oui ou non. Les neurosciences aujourd'hui, est-ce que ça contredit la liberté ou bien est-ce que la culture peut influencer nos mécanismes neuronaux, l'homme et la femme, où est la est-ce une vraie tension et ainsi de suite. Alors chez Kant, il y a une hésitation. Est-ce que on est l'un ou l'autre? Si on est libre, ben forcément on n'est pas déterminé. Si on est déterminé, bon, c'est l'un ou l'autre, mais est-ce que ça ne peut pas être l'un et l'autre? Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois libre et déterminé? Donc, il y a de ces tensions une interprétation que j'ai possible, que j'ai interprétée disjonctive, l'un ou l'autre, et conjonctive, l'un et l'autre. L'hypothèse à partir desquelles j'ai envisagé, avec d'autres, l'évolution des politiques publiques, c'est l'hypothèse selon laquelle on va passer progressivement d'une dominance disjonctive à une dominance conjonctive. Et le tournant s'opérerait, alors tout ça peut se discuter, mais je pense que le tournant s'opère dans les années 60-70 du siècle dernier, et que nous sommes, et toute une série de choses au niveau des politiques publiques peuvent s'éclairer, s'expliquer en partie par ce retournement anthropologique. Au XIXe siècle, il y a des capables et des incapables. Ce sont des termes qui sont hyper présents dans le vocabulaire politique, dans le vocabulaire juridique. Les capables ont des droits et les incapables n'ont pas de droits. Les femmes n'ont pas de droits parce qu'elles sont incapables. Les fous n'ont pas de droits parce qu'ils sont incapables et ainsi de suite. Et ça va effectivement durer pour les femmes, je ne sais pas, en Belgique par exemple, la femme doit encore demander à son mari si elle peut ouvrir un compte en banque à son nom jusque dans les années 60 du siècle dernier. Et donc, En France aussi? Je pensais que la France était... Bon, enfin... Mais... Donc, on va passer progressivement de ce modèle disjonctif à un modèle conjonctif. Tout d'abord, au travers d'une extension de ceux qui sont capables. Il va y avoir les luttes ouvrières. Les ouvriers n'avaient pas le droit de vote, le féminisme, etc. Donc, l'âge diminue, donc le droit de vote maintenant c'est 18 ans, la majorité sexuelle, etc. Tout ça. Donc l'extension tout d'abord de ceux qui sont capables, Mais progressivement, on va passer à un modèle qui me semble être le modèle dominant et qui explique bien des choses aujourd'hui, un modèle qui est conjonctif. On pense maintenant que les gens sont toujours à la fois capables et incapables, responsables et irresponsables. Et c'est quoi le vocabulaire pour dire ça? Le vocabulaire qui est dominant pour dire ces trucs-là, c'est les gens sont fragiles et vulnérables, fragiles et vulnérables, et d'un autre côté, ils sont toujours, terme qui a un succès pas possible, résilients. Ils ont toujours des ressources, ils ont toujours des capacités. Vous tapez dans Google vulnérable, vous avez une flopée d'occurrences et vous avez résilient qui s'amène, et inversement. Donc ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, les humains se situent non pas dans la disjonction, mais sur ce que j'ai appelé un continuum anthropologique. Et les gens circulent sur ce continuum anthropologique. Ils ont des chocs, ils ont des aléas dans leur vie, et ils peuvent régresser, ils vivent des traumas qui peuvent rester, mais ils sont en bout de course, ils sont vraiment du côté à incapacité, mais ils ont toujours des ressources possibles, ils sont toujours résilients, et même les incapables du 19e siècle, ils ont des ressources, ils ont des talents, ils ont des capacités. Et ce qu'on considérait comme des incapacités, qu'on considère maintenant comme des fragilités, comme des vulnérabilités, eh bien, on peut les voir comme des talents aussi, on peut les voir comme des ressources. Donc la question du handicap, de l'incapacité, se pose de manière totalement différente de la manière dont ça se posait lorsque c'était considéré comme des statuts. Un certain nombre de conséquences. J'ai combien de temps encore ? 10 minutes. Bon. Je vais énumérer un certain nombre de conséquences possibles, peut-être plus directement par rapport aux politiques publiques. Je pense que cette perception du continuum anthropologique fait que nous avons, par rapport à ces situations, chômage, traumatisme, santé mentale, etc., fragilité, nous avons une dualisation des horizons normatifs. Oui, il faut rendre les gens autonomes, donc ça reste, je pense, l'horizon normatif dominant, mais il y a le pôle vulnérabilité, et donc autonomie, care. Deux horizons normatifs qui, je pense, sont très présents dans les logiques de travail social et qui font que le travail des travailleurs sociaux est compliqué parce qu'ils doivent rendre les gens autonomes, et dans les politiques de responsabilisation ils doivent les contrôler pour qu'ils deviennent autonomes, qu'ils se prennent en main, etc. Et s'ils ne se prennent pas en main, ils n'ont plus leurs droits, mais il y a aussi l'impératif d'accompagnement, de care, etc. Donc j'ai suivi des recherches sur les politiques sociales, des mémoires dans des institutions de travail social, et les travailleurs sociaux ont d'énormes difficultés par rapport à ça. Il y a dans certains services une désertion professionnelle à cause de ces difficultés. Deuxième chose, là où la capacité et l'incapacité étaient au 19e siècle des statuts, ça devient maintenant, puisqu'on est sur un continuum anthropologique, qu'on circule, ça devient des processus. C'est plus un statut, la capacité, c'est un processus. On ne parle plus de capacité, on parle de capacitation, je l'ai dit, de responsabilisation, de capacity building, d'empowerment, d'activation. Ehrenberg raconte que les médications qui sont en plein boom pour le moment, ce sont celles qui sont liées à l'hypo- et l'hyperactivité, la Ritaline, etc. La vulnérabilité, la fragilité peut se transformer en atout. Je me suis intéressé, parce qu'on a tendance à se dire la fragilité est du côté incapacité, enfin, pour utiliser les termes anciens, mais la fragilité, la vulnérabilité, en réalité, elle est sur l'ensemble du continuum. Et je ne sais pas si c'est vos lectures de chevet, mais si vous lisez des bouquins du management, vous allez trouver des bouquins « Faites de vos vulnérabilités un atout ». Donc ceux-là aussi, ils sont vulnérables. Donc vous voyez, cette nouvelle anthropologie pénètre l'ensemble du continuum. Le handicap, ce qu'on désignait comme le handicap, peut tout à fait se muer en différence positive. Donc, par exemple, j'ai travaillé un peu sur les transformations des politiques culturelles. Eh bien, il y a en Belgique, j'imagine que c'est la même chose en France, des revendications de la part des sourds-muets pour que leur langage soit reconnu comme un autre langage et pas un moindre langage. Et il y a toute une série de recherches, par exemple, qui montrent la richesse spécifique de ce langage des sourds-muets, richesse spécifique qui ne se retrouve pas dans d'autres langages, notamment pour les communications avec les tout jeunes enfants. Bon, je crois qu'on va en parler dans des ateliers, si j'ai bien compris. Les entendeurs de voix, par exemple, eh bien, au travers de cela, il y a une mutation, en quelque sorte, de quelque chose qui aurait pu être et qui était souvent diagnostiqué schizophrénie, paranoïa, qui maintenant devient une différence, éventuellement une différence positive. Idem pour l'autisme Asperger, par exemple. Donc, ce qui était évalué en termes négatifs d'incapacité de handicap peut se transformer. Évidemment, comme la pression à l'autonomie et à la responsabilité devient et demeure dominante, j'ai évoqué les liens de la responsabilité jeu avec le libéralisme et le néolibéralisme. Ce nouveau contexte, où même les plus vulnérables ont des ressources et doivent se reprendre en main, eh bien, au niveau des politiques publiques, ça peut conduire à une conditionnalisation des droits sociaux au nom de la responsabilité. Donc, je vous ai dit, j'ai suivi une recherche dans des CPS, donc des services sociaux en Belgique, et la chercheuse qui travaillait avec moi, donc elle avait été branchée sur les auxiliaires de modalité, eh bien, elle a observé que comment on évaluait les gens qui se présentaient dans ces services-là. Eh bien, il y avait une grille. La première grille, c'était vouloir. Donc, est-ce qu'ils étaient motivés, plus ou moins? Et l'autre axe, c'était capacité et compétences. Est-ce qu'ils ont des capacités? Est-ce qu'ils ont des compétences? Alors, il y avait les moins-moins, ceux-là, c'est pas terrible. Alors, il y avait les plus ou moins et les moins-plus. Et puis, il y avait les plus-plus qui étaient et donc, parce qu'il y a une différenciation, donc il y a une multiplication des dispositifs d'action sociale, on les dirigeait alors vers tel ou tel dispositif. Cette responsabilisation accrue, qui exerce une pression sur ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, a conduit progressivement à une transformation du paysage des politiques sociales en Belgique, mais ça m'étonnerait qu'en France ça soit extrêmement différent vu ce que j'entends. Au départ, les droits sociaux sont considérés comme des droits individuels inconditionnels. Sous l'angle de la pression à la responsabilité, il y a de plus en plus de gens qui sont exclus de ces droits qui étaient inconditionnels. Et donc, ils relèvent d'autres logiques de ce qu'en Belgique on appelle des revenus d'insertion. Mais là aussi, il faut se reprendre en main, il faut être motivé, etc. Et donc, il y a ceux qui échappent à ça. Donc, on a une sorte de dégringolade depuis les logiques sociales mises en place par l'État social vers des revenus d'insertion et puis vers quelque chose qui se développe et qui, il y a 20 ans, était réservé aux pays du Sud, comme on dit maintenant, c'est l'humanitaire où prévaut le care. Donc le care, si vous voulez, Et ce n'est plus les politiques sociales qui financent ça, c'est le Téléthon, c'est des ONG, c'est du mécénat, c'est des legs. Enfin, j'entendais là, je suis venu en voiture, enfin, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais... mais j'entendais des publicités invitant aux legs à Médecins Sans Frontières, etc. Donc ce secteur humanitaire, de la prise en charge humanitaire, où prévaut le care, où on ne conditionnalise plus, donc j'ai étudié un peu les Restos du Cœur, ce dont le Resto du Cœur se montrait fier, c'est qu'on ne pose pas de questions. Les gens y viennent, donc il y a une inconditionnalité, mais cette inconditionnalité qui était le lot des politiques sociales classiques, maintenant c'est le care, c'est l'humanitaire qui s'en charge. Et les politiques sociales, eh bien, elles, je pense que dans le cas de la France, hein, quand j'entends ce qui se fait, il y a une sorte d'articulation, de tension entre... d'une part, une logique de contrôle et de restriction de droits, et d'autre part, une pression à la formation, à la capacitation, à l'empowerment. Si j'ai bien compris, dans les réformes de Macron, il y a effectivement moins d'accès à des droits inconditionnels, et l'idée que l'argent qui va... éventuellement être récupéré, va être réinjecté dans des politiques de, je ne sais pas comment on les appelle, de formation, de capacitation, etc. Donc il y a, si vous voulez, un transfert qui est lié à ces bouleversements anthropologiques. Et je pense que l'alternative politique aujourd'hui, c'est ou bien l'humanitaire, ou bien une vraie capacitation, mais pas liée à la conditionnalisation de l'accès aux droits, c'est-à-dire, c'est ce que défendent, enfin Jean de Meuc n'a pas pu venir, il aurait parlé de ça, c'est ce que défendent Amartya Sen, Martha Nussbaum aujourd'hui, c'est-à-dire une véritable capacitation qui rend réel les droits. J'ai plus qu'une minute, donc de quoi je parle. Je pense que dans le domaine de la santé mentale, ce transfert d'un modèle disjonctif à un modèle conjonctif est très très parlant. Donc j'ai étudié les transformations des politiques publiques en matière de santé mentale en Belgique. Donc c'est il y a une quinzaine d'années, c'est avec Jean de Meuc d'ailleurs et Didier Vranken de l'Université de Louvain et Didier Vranken de l'Université de Liège. Et d'une certaine façon, on a été confrontés là. On a beaucoup travaillé avec des acteurs de terrain, avec les Ligues Wallonnes et Bruxelloises de santé mentale, avec des acteurs, avec des associations de parents. Et on a été confrontés là aux effets, en quelque sorte, du développement de l'ambulatoire. Non pas que... les gens qui discutaient avec nous critiquaient cela, mais ils disaient que la transformation majeure, c'était le passage à des dispositifs ambulatoires, avec une difficulté en quelque sorte pour un certain nombre de cas, parce que l'ambulatoire avait été trop lié ou était trop lié au niveau des politiques sociales à l'exigence d'autonomie, avec de grosses difficultés qui naissaient par rapport aux cas chroniques, par rapport aux pathologies les plus lourdes. Évidemment, puisqu'on était passé à l'ambulatoire, il y avait moins de lits. Et donc toute une série de difficultés liées à ce passage. Mais par contre, ce qui était extrêmement intéressant et qui rejoint... j'ai plus de 30 secondes pour rejoindre la thématique du colloque. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est de voir l'effet sur les thérapeutes, sur le monde de la santé mentale, de la reconnaissance des compétences de ceux qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans avant, on aurait considéré comme incapables, comme incompétents. Donc on a beaucoup travaillé avec des associations de patients, par exemple, voir comment le droit des patients pouvait être reconnu et défendu par les patients eux-mêmes dans des institutions psychiatriques. Et effectivement, la reconnaissance liée à cette transformation anthropologique, la reconnaissance de ce qu'on appelle le plus souvent maintenant les savoirs expérientiels. Donc le fait que les expériences en jeu sont des expériences qui sont en quelque sorte indépassables et qui doivent impérativement être intégrées dans les processus dans lesquels il était exclu parce que l'anthropologie était disjonctive. Voilà, je vais m'arrêter. Là, j'aurais pu parler. La page suivante, c'est consacrée au rétablissement et à la recovery, mais...